c'est un terme que vous avez retrouvé dans le commentaire de Jacobert, mais c'est pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ici, ce qu'il y a entre les deux, c'est la question qui s'appelle père. Parce que je voulais faire remarquer, dans son écrit qui s'appelle La méprise du sujet supposé savoir, Lacan nous explique que le sujet supposé savoir, qui est l'argument du transfert, on va voir pourquoi, c'est que pour transférer, il faut supposer un sujet. Mais c'est surtout, c'est pas seulement qu'on suppose un sujet, c'est pas bien attaché supposer à savoir. Il faut bien attacher supposé à savoir. Le sujet, justement, nous dit Lacan, c'est qui dans l'analyse? C'est un supposé savoir. Voilà. Il y a un sujet qui est supposé savoir. Le supposé savoir qui vient vous rendre visite, c'est lui que vous recevez comme sujet. Ce n'est pas une personnalité. Même s'il est psychotique. Ce n'est pas une personnalité. Vous n'avez pas à vous leurrer, à vous faire prendre comme ça, à croire que vous allez faire quoi, l'assistance sociale ou être gentil avec les gens et quoi, répondre à la demande. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est absolument fraternel, si vous voulez. C'est d'une humanité, il n'y a pas de leçon à recevoir, hein, psychanalyse. La meilleure chose qu'on peut faire pour quelqu'un, n'est-ce pas, c'est de s'occuper de ses oignons et de se fermer sa gueule. Et de temps en temps, on peut peut-être le mettre sur la piste un petit peu de son travail d'analysant. Bon. Mais lui, il a besoin de quelqu'un à qui parler. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Pour s'apercevoir que le transfert, ça ne peut pas se passer, justement, en effigie, ça, en absence. Vous voyez, il faut être devant quelqu'un et prêt à lui parler, savoir ce qu'on veut lui dire, même, et le savoir très très bien, et s'apercevoir qu'on ne peut pas le dire. C'est quand je vous dis, ça vous tombe, c'est quand on se tait que là, eh bien, on peut commencer à le gribouiller sur un papier pour préparer la séance suivante. C'est ce que faisait Lacan dans ses séminaires, il dit, c'est quand même extraordinaire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de gribouiller? Parce que là, non, il ne se prenait pas. Vous voyez, pourquoi on a besoin de gribouiller les trucs comme ça pour parler? Vous voyez, moi je parle, mon discours, il est travaillé par l'écriture, c'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est écrit. Je n'ai pas besoin d'avoir des notes. Bon, j'ai des bouquins, j'ai mes petites bornes, là. J'ai mes points d'appui, hein. Je m'organise un peu sur la table, bon, top, ça fait... Mais le problème, c'est que c'est écrit. Et si c'est écrit, et si c'est pas bien écrit, moi je me plante, voilà. Je me gourre, je fais des lapsus. Bon. Et de toute façon, dans la parole, il y a un risque énorme parce qu'on fait toujours des lapsus. La parole, c'est, comme le dit Lacan au séminaire, les embrouilles du vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de père? Donc, lisez Jacobert. Jacobert, il est vachement sympa avec Lacan. Avant d'en venir à cette deuxième version de la... en termes de nœuds, alors, je vais vous dessiner ce que nous dit Lacan de Joyce quand il dit... Il y a quelque chose de l'ordre d'un délire. Il dit même il y a une forclusion. Il le dit, il y a le père là, le père qui était soulographe et qui envoie son fils chez les jésuites. Hein, Lacan nous explique, il a lu Joyce un petit peu quand même, l'église diplomatique. À propos de l'église diplomatique, le père il trouvait que c'était très bien. Lui il était démuni, il avait abandonné, il démissionnait le père. Et là, quand elle ajoute, vous voyez, c'est page 107, là, dans la version que j'ai, la leçon du 10 février. Vous le trouvez bien, le mot Werwerfung? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une, je dirais, compensation de cette démission paternelle? Là, il n'en est pas à parler de l'ego de Joyce encore, il parle d'une compensation chez Joyce. Hein? Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, de cette Werwerfung de fait, dans le fait que Joyce se soit senti impérieusement appelé, c'est le mot. C'est le mot qui résulte d'un tas de choses dans son propre texte, dans ce qu'il a écrit, et que ce soit là le ressort propre de ce par quoi, chez lui, le nom propre, c'est quelque chose qui est étrange. Et donc, Lacan, il dit bien Werwerfung, mais dans cette leçon, comment il dit que la psychose, c'est, ici, il dit qu'elle est pas, bon, dans le texte que je vous ai distribué, l'expression, il y a deux expressions qu'il emploie à propos de la psychose. Il y en a une qui est de dire, voyez-vous, comment il le dit ici? Il dit qu'elle n'est pas réservée à quelques-uns. Comment il le dit dans le texte?
Elle est commune.
Voilà, elle est commune. Elle est commune, vous voyez. La psychose, ici, dans le texte, il dit qu'elle est commune. Hein. C'est au moment où il est en train de parler, justement, du fait de « croyez pas que le symptôme, le quatrième nœud, c'est une psychose. Hein. Sinon qu'elle est commune. Hein. » Bon, et qu'est-ce qu'il dit? Comment il reprend là? Dans la leçon du 10 février, il le reprend, cette psychose, il dit, cette psychose, c'est pas un privilège, il dit, ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Hein. Et comment il traite à ce moment-là Joyce? Il le traite comme réparation dans le nœud trèfle. Donc voilà les deux dessins que je vous propose. C'est que si vous avez un ratage dans le trèfle, hein, si je rate par exemple ce croisement, ici je peux mettre une réparation. On rentre dans un nouveau vocabulaire. Il a passé en dessous, donc on va lui faire passer quelque chose encore plus en dessous. Et celui-là qui passe au-dessus, on va lui passer dessus. Alors voilà. Je mets la réparation d'une erreur. Donc là, il y aurait. Je vais le dessiner même mieux comme ça. Regardez. Je vais faire deux dessins. Je vous dessine l'erreur. L'erreur, c'est dans cette leçon, l'erreur. Hein. L'erreur de Joyce, c'est un ratage d'un croisement. Mais ce n'est plus le croisement à l'infini ici qui est raté, c'est ici que c'est raté. Et maintenant, dans ce cas-là, Lacan, il nous ajoute la réparation dans le cas de Joyce. Mais toujours, Joyce, déjà, il le traite, comme il va le traiter dans le son 11, il le traite en termes de réparation. La réparation, c'est un rond qui est là. Alors là, il ne l'appelle pas ego dans cette leçon, il n'en dit rien. Il n'a même pas l'air de désigner cette affaire de Joyce. Bon. Et là, il emploie le mot verberfung, il emploie le mot forclusion. Donc il y a toutes les chances que, je vous disais, Catherine Millot qui avait écrit la première dans le truc Lacan avec. Joyce avec Lacan, c'est elle qui a écrit à propos des épiphanies que Joyce était psychotique. Bon, il y a toutes les chances qu'on se soit gouré, parce que c'est une grande difficulté de lire Lacan. Lire Lacan, c'est le contraire du dogmatisme, c'est la dédogmatisation de Freud. Vous pouvez absolument pas prendre un énoncé de Lacan pour de l'argent comptant. Bon, il faut tenir compte des citations, il faut lire le texte effectivement, il faut lire ce qui est écrit. Hein. Mais vous remarquerez que Lacan, il vous entraîne dans une grande involution qui fait que ce qu'il va dire à un moment donné, ensuite il va pouvoir dire sans se contredire jamais, en restant dans un discours consistant, il va dire le contraire. Et qu'en logique canonique classique, quand on dit le contraire de ce qu'on a dit, c'est qu'on se contredit et ça devient inconsistant. Pourquoi ? Parce que les discours qui sont effondrés par l'inconsistance, ce sont les discours vrais. Si votre discours est vrai, qu'il soit réfutable, comme la science pour Popper, ou qu'il soit irréfutable, comme la métaphysique pour le même Popper, les discours vrais, ils sont invalidés par l'inconsistance, par la contradiction. Hein, tu te contredis, camarade. C'est comme ça qu'on disait. Hein, ça fait plein de petits psychotiques militants. Là, vous voyez, bon. Tu te contredis, camarade. Si on n'a plus le droit de se contredire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans un lit. Ah oui, parce que dans un lit, on se contredit vachement. Bah oui, parce qu'on est quand même on a un peu de dignité quand même, pour se conduire comme des bêtes. Hein? Bon, et puis même les mots, bon, et l'obscénité, voilà. Qu'est-ce que c'est? Le suprême du phallus, c'est quoi? C'est la castration. Qu'est-ce que c'est que cette dégradation, ce ravalement de la sexualité humaine? C'est pas du tout que les hommes sont des porcs et que les femmes sont des cochonnes si elles aiment la queue. Parce que qu'est-ce que Freud a découvert? C'est que les femmes, qu'est-ce qu'elles veulent? Les femmes, elles sont intéressées par cette histoire de phallus. Bon. Et qu'il y a quelque chose qu'aucune logique n'est capable de mettre en œuvre, c'est qu'est-ce que c'est que ce phallus? Vous avez même des efforts louables. Hein. Lisez Le sexe et l'effroi de Pascal Guignard, par exemple. Très joli livre. Hein. Vous avez le panorama de tout ce que nos pères, enfin, dans ma génération, c'était la génération de mon père, et de mon beau-père, et des mâles de la génération d'avant. Ils avaient fait des versions latines, vous savez, des thèmes latins, mais surtout dans les versions. Ils avaient en cachette, ils disaient aussi, vous voyez, même Gide fait des plaisanteries sur le nombre 2, il se réjouissait d'être un père. Tous ces gens qui avaient une culture latine, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils avaient une sexualité clé en main, elle était latine. Et donc, l'intérêt du livre de Guignard, c'est qu'avec ça, vous pouvez facilement suivre tous les débats de votre père ou de votre grand-père. Bon, c'est mon problème, vous ne les avez pas en analyse. Bon. Et puis maintenant, les jeunes, il paraît qu'ils font autrement. C'est pas sûr, mais ils font plus de latin. Ça, c'est un fait. Alors, le problème, c'est où est-ce qu'ils vont trouver leur modèle? Bon. Le problème, c'est que dans Le sexe et l'effroi, lisez-le, vous verrez, c'est très très bien. C'est un livre extrêmement intéressant. Si vous avez un PP en analyse, vous avez intérêt à lire Le sexe et l'effroi, vous allez pouvoir suivre la conversation. Alors, le problème, c'est que c'est pas de ça dont il s'agit, c'est qu'il n'y a pas l'histoire que Freud découvre. La Villa des Mystères, il n'y a pas un seul historien qui le commande correctement. Il y en a qui ont fait des efforts, hein. Il y a Vane et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de la pudeur, ce démon de la pudeur? C'est pas une scène, malgré tout ce que vous pouvez imaginer du cinéma de Pasolini, c'est pas salaud, machin, c'est pas une scène, les murs ont beau être rouges, hein, c'est pas la, le mec avec la badine, le démon de la pudeur qui arrive avec la badine au moment où on va dévoiler le phallus. Qu'est-ce que ça essaye de représenter alors que c'est pas une affaire de représentation? C'est pas possible, c'est pas représentable. Justement, c'est la question même. La mère n'a pas de phallus. Bon, ça c'est la castration. Mais ça a commencé, je vous ai dit ça la semaine dernière, ça a commencé comment? La castration, c'est la mère, elle est castrée. L'autre, il y a un manque dans l'autre. Bon. Mais ça a commencé comment? Le malentendu des parents. L'enfant, l'obscénité, elle vient de là. Il y a quelque chose qui structure l'obscénité. Hein. Ce n'est pas des histoires d'animaux, c'est pas... Bon, bien sûr que nous naissons entre l'urine et la merde. Bon, ça, Freud, c'est un médecin, il le dit, il a raison. Mais ce n'est pas ça le problème. Il y a des obscénités qui sont très, 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 très bien enveloppées, très bien présentées. Vous savez. Hein? Moi, je suis scandalisé par les obscénités que j'entends tous les jours à la télévision, alors qu'on est en train de pourchasser les méchants psychos. Non, on les appelle pédophiles, je crois, par exemple. Bon, qui serait Gilles de Rais, vous voyez, le grand œuvre. Bon. Mais la Villa des Mystères à Pompéi, ce n'est pas une scène sadomasochiste, c'est une scène d'initiation, sans doute. Certainement. Dionysiaque, venant du monde grec, mais c'est quoi? C'est le fait que, au moment où on va dévoiler le phallus, c'est-à-dire la vérité aussi, c'est la vérité, c'est le phallus, c'est l'autorité de la parole, c'est le fait que la parole dit la vérité, elle porte la vérité, donc on doit, c'est le principe même de l'autorité, comme le dit Kojève, l'autorité, on ne peut pas la contester parce que c'est un truc incontestable. Si on conteste l'autorité, il n'y a pas d'autorité, puisque l'autorité, c'est reconnaître que l'autorité existe. Et donc c'est seulement ce truc-là, c'est que justement l'autorité, elle existe tellement bien qu'au moment même où elle se manifeste comme parole, celui qui parle, eh ben c'est du vent. Parce que alors on va faire des trucs, vous voyez, la voix est le phénomène, ça souffle, bon, la respiration. C'est pas inintéressant, il y a des gens qui ont du talent, moi je vous conseille de les lire, hein, Derrida, Deleuze même, bon, il se prend pour Faulkner, moi je trouve ça Faulkner, c'est magnifique. Bon, seulement le problème, c'est qu'il faut voir que Lacan, justement, c'est pas Faulkner, c'est pas Derrida, c'est pas Deleuze. C'est beaucoup mieux parce que c'est aux petits oignons, parce que le truc qui nous plaît là quand ça déconne dans le texte, quand ça dérive, quand ça dérape, cette confusion entre la parole et l'écrit, ben dans Lacan, il en fait mathème de ce déconnage, de cette erreur, de ce lapsus. Il arrive à faire un écrit qui est... Ce qui intéresse Lacan, c'est où est-ce que la parole et l'écriture se rejoignent? Où est-ce que le symptôme femme et l'hystérique se croisent. Voyez-vous, il dit Joyce, il s'accepte comme femme à l'occasion. Hein. Ça ne vous donnera pas un moyen d'envoyer à la guillotine ou au four ceux qui n'ont pas le trait distinctif, parce que le problème, c'est que ça s'involue entre névrose et perversion, et ça s'involue entre névrose, perversion et psychose, et ça s'involue entre psychose et psychanalyse, et qu'il faut passer par ces tours et ces détours pour prétendre, justement, voir qu'il y a des scansions. Et qu'il y a des scansions qu'on peut recueillir même dans une formule incompréhensible. C'est comme la gravitation de Newton. Il y a des formules comme ça qui sont des condensés de l'impossible. Ça s'appelle le réel. Et pourquoi la psychanalyse achève le discours scientifique? Parce qu'elle s'occupe de ce réel qui est un fait d'écriture, ça ne peut pas s'écrire, mais ça s'écrit au sens où on fait le tour, mais ça ne s'écrit pas tout. Et cet écrit, hein, eh bien les mathématiques, elles le font beaucoup plus souvent et elles l'ont fait depuis très longtemps. Seulement le problème, c'est que l'industrie sait faire rentrer ce réel de l'écriture, le réaliser dans le monde. Les instruments scientifiques, tout le monde dans lequel vous vivez, il n'est plus du tout néolithique. Hein, il faut arrêter de faire de l'écologie. Il est industriel, ce sont des textes réalisés. Et ces textes, ils font rentrer dans le monde le réel. Vous ne savez pas que dans la réalité psychique, Au lieu de faire un trou dans la réalité psychique de Freud, hein, comme dans le cas Schreber qui empêche l'appareil de fonctionner, il faut vous rendre compte que le texte scientifique et industriel et capitaliste qui fait rentrer le réel dans le monde et que ce réel, il est destructeur. Mais qu'on ne l'arrêtera pas. On ne l'arrêtera pas comme ça. On ne l'arrêtera pas. On l'arrêtera que si, justement, cette fameuse histoire des sciences humaines et des sciences exactes, on arrive à se défaire de cette différence. On arrivera à une scansion, à résoudre ce tournant, si on arrive jusqu'à écrire l'impossible du sexe pour démontrer comment il s'écrit, en tant qu'impossible et qu'il ne peut pas s'écrire. Et Lacan, il l'a fait, c'est même déjà les formules de sexuation. Le problème, c'est qu'il faudra les lire. Il faudrait être capable de les lire pour les réécrire et pour les écrire pour son compte. C'est pour ça que j'ai mis ma lecture des formules de sexuation sur Internet. Je ne pense pas qu'on va les lire tout de suite, hein. Mais quand je vois le cafouillage avec Milner qui parle de limites et d'illimités, la société, l'État, ou bien ça c'est dans le penchant criminel. C'est pire que ce que dit Milner, le penchant criminel de l'Europe démocratique. Maintenant, il faudrait parler du penchant criminel de l'Europe scientifique. Et de toute façon, il faut parler du penchant criminel de la science. Hein. Et la psychanalyse, c'est la seule réponse à cette pratique des trous. Parce que ce trou, vous n'arriverez pas à le boucher. Il faut qu'on en dégoûte tout le monde. Et donc, la seule façon de se dégoûter de ce trou, de la science et du capitalisme, c'est d'y aller, d'aller le voir, et sans préjugés, et de le pratiquer. Et alors, en même temps, c'est comme le sexe, hein, c'est obscène. Mais on en tire une satisfaction. Lisez Spinoza, lisez l'amour intellectualis deis. Ça s'appelle Dieu. Donc je vous ai fait remarquer que cette histoire de femme et de père, hein, disait Jacques Aubert sur Joyce, il est vachement sympa avec Lacan, il retrouve qu'est-ce que veut une femme, qu'est-ce qu'un père dans Joyce. Il est vachement sympa Jacques Aubert. On doit sûrement pouvoir faire d'autres lectures de Joyce. Hein. Mais n'empêche qu'il a travaillé avec Lacan pendant pas mal de temps, hein, pour en arriver là. Et alors, vous verrez que cette histoire de père, je vous ai dit que le passage du monde médiéval de Saint Thomas, c'est un passage du père de la théologie. C'est ça que le gendre ne voit pas. Le gendre, il nous dit, vous avez tort de méconnaître le droit romain, le droit canon, parce que c'est lui qui est le texte juridique du catholicisme et du christianisme, en particulier du catholicisme. Qu'est-ce que c'est? Il a raison, le gendre. C'est certainement important, le droit canon. Il a raison, mais c'est pas seulement une affaire de droit, c'est aussi une affaire de théologie. Et justement, Lacan nous dit, dans le texte sur la méprise du sujet supposé savoir, cette affaire de théologie, il y a une différence à faire entre le dieu de la théologie, hein, le dieu de la théorie, hein, c'est ça que manient les mathématiciens aujourd'hui, l'informatique également, mais l'informatique, c'est une réalisation des machines de Turing. C'est pas des machines de Turing. Turing n'était pas psychotique, on l'a condamné à mort, et on en fait le nouveau Socrate de la civilisation occidentale, mais il n'est pas psychotique. Il était homosexuel, bon, ok. Et ces salauds d'agents secrets anglais, là, les renseignements, ils ont voulu le suicider parce qu'il allait être approché par un espion allemand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pense qu'ils ne supportaient pas d'avoir affaire à un génie qui soit pas. Qu'ils étaient comme paranoïaques comme tout le monde, enfin comme la plupart. Ils ne le supportaient pas. Turing, c'est un génie, et c'est vrai qu'il a accepté de bouffer cette pomme avec du cyanure. Bon. Donc c'est comme souris, c'est des choses intéressantes de regarder un peu autour, qu'est-ce qui se passe, discursivement. Bon. Le point, il est que cette affaire de trou, c'est pas une affaire seulement c'est une affaire de théologie, mais c'est aussi une affaire de diologie. Donc Lacan, il souligne que Joyce, de Moïse jusqu'à Joyce, il s'agit des pères de la diologie. Et que la diologie, ça concerne le nom du père, ça ne concerne pas le sujet supposé savoir, le sujet du transfert. Donc c'est plutôt l'hystérie qui est assez peu transférentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous raisonnez avec ce que je suis en train de vous dire, vous verrez que Lacan, il est en train de retourner complètement le discours analytique comme une chaussette. Hein. C'est ça qu'il faut faire. C'est même pour ça que les cauchemars, les phobies d'un enfant, c'est une horreur. Les cauchemars, c'est dégueulasse. Et l'angoisse, n'en parlons même pas, il n'y a pas de mots. D'ailleurs, justement, on ne dit rien, c'est l'abjection qui vient du corps. Qu'est-ce que c'est que le délire? Le délire, le sadomaso, les pervers, ils mettent le petit bout du doigt dans la machine infernale, vous voyez? Comme dit Lacan, là, les masos qui veulent regarder si la balafre, le coup de fouet sur le corps, ça laisse une trace qui est... Est-ce que c'est un trait lunaire? Est-ce que c'est lisible? Bon, c'est comme ces magnifiques les travestis qui, eux, vous montrent que la féminité, c'est pas du tout ce que vous croyez, puisqu'ensuite, ils exhibent la queue. Bon, c'est pas de l'exhibitionnisme, le travestisme. C'est une opération logique qui vous montre que femme, hein, c'est pas seulement l'absence de la queue qui empêche d'être femme et de faire croire à femme et de faire la séduction femme, et ça fait des exercices logiques magnifiques. évidemment méconnu par le sujet. Il vous dira que ce n'est pas ça du tout, que nous n'avons rien compris. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à les convaincre, il ne faut pas chercher à leur dire. Chacun, il fait ce qu'il veut avec ce que dit le discours analytique. Pourquoi ? Parce que le discours analytique, il est faux. Il est faux. J'ai pas voulu ni baiser ma mère, ni tuer mon père. C'est faux. Mais c'est irréfutable. Voilà, c'est ça que Bagnou ne peut pas comprendre. C'est irréfutable. Ça veut dire que je ne peux pas prouver le contraire. Voilà, les énoncés de Freud, ils ont une valeur logique, alors qu'ils sont faux. Il n'y a aucun fait qui peut y correspondre. C'est inévaluable. Mais si c'est évalué dans un modèle discursif, c'est faux. Mais c'est irréfutable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prouver le contraire. Personne ne peut prouver que justement il n'a pas eu, comme dit Freud, une tendance comme ça, sexuelle et amoureuse en direction de sa mère, et une tendance violente et agressive et en direction du père. Donc il faut vous faire à l'idée que là il y a un appareil logique qu'il faut maintenir dans le discours analytique, mais qu'il ne faut pas faire déborder. Ce n'est pas destiné à prendre le pouvoir, c'est destiné à ce qu'on passe par un, par ce trou abject, pour en avoir un dégoût total, de plus pouvoir entendre les émissions médicales qui vous disent qu'on vous a fait des progrès parce qu'on vous a foutu un pontage entre les testicules et je ne sais pas quoi. Bon, moi, j'ai connu des médecins brésiliens, vous savez, qui rêvaient des greffes comme ça. Ils avaient un fantasme, c'était celui de l'escargot. Ils voulaient réussir à créer des êtres androgynes, vous voyez, qui feraient hommes et femmes en même temps. Bon, qu'est-ce qu'ils faisaient le reste du temps quand ils n'étaient pas dans leur bloc opératoire? Ils allaient voir les putes et ils dépensaient avec leur carte de crédit tout l'argent qu'ils avaient. Bon, ça leur posait quelques petits problèmes, ils allaient voir un analyste du coup. Mais c'est des choses fabuleuses comme ça qu'il faut savoir qui existent, vous voyez. Et donc, il faut arrêter de dire que la psychanalyse, elle est là pour soigner les bobos. Bon. Je vais finir là-dessus en vous disant simplement que la formule de Lacan, donc, quant avec Sade, elle est magnifique. Lacan nous dit qu'on ne peut pas méconnaître ça si on parle de psychanalyse. C'est que c'est un déplaisir que le sujet rencontre sur le chemin de la satisfaction du désir. Et que ce déplaisir, il va devenir la forme de la satisfaction du désir dans le retour du refoulé. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils en ont fait un symptôme jouissance masochiste, nos petits analystes. C'est un scandale. Pourquoi ? Parce que ce déplaisir que le sujet rencontre sur la voie de la satisfaction de son désir de l'enfant dans ses théories sexuelles infantiles, ce déplaisir, ce n'est pas un petit bobo, ce n'est pas un petit malheur, ce n'est pas, c'est pas parce qu'il a perdu je ne sais pas combien d'argent à la bourse ou au jeu, ou c'est pas parce qu'il a perdu ses jouets, non, c'est la castration de la mère, c'est impensable. Il ne peut, et donc c'est pas et ça devient la satisfaction dans le retour de refoulé, ça devient jouissance. Et le désir devient le manque dans l'autre. Il faut l'affronter, ce manque, voyez-vous. Or, j'ai entendu, il y a quelque temps, une dame dans la psychanalyse qui dit une phrase comme ça. Je vous promets, je l'ai entendue explicitement. Une dame qui dit, le pathos dans les foules, est-ce que ça n'a pas cet aspect obscène de la jouissance? Mais qu'est-ce que c'est que cette dame qui nous dit que la jouissance a un aspect obscène? Il y a de l'obscénité dans le sexe, on est bien d'accord. Mais confondre la jouissance et l'orgasme même, c'est déjà une erreur. Regardez ce que dit Lacan dans le séminaire L'Angoisse. L'orgasme, c'est quoi? C'est lors du passage à l'acte, c'est quelqu'un qui fait dans son froc. Hein? C'est la même chose que si c'est au lit. Bon, donc c'est pas qu'on arrête de nous faire la sexologie de cette affaire. Ce n'est absolument pas sexologique. C'est une affaire intégralement discursive, mais ne vous laissez pas aller à dire que c'est pas naturel. Alors l'année prochaine on va peut-être faire 3 cours en septembre, hein. Mais on va louer ça parce que moi je prépare pour le collège un projet de convention entre l'Argentine et la France. Je voudrais essayer de créer des rencontres et des échanges avec les Argentins qui suivent mes cours en Argentine et puis les Canadiens aussi, les Belges, à Barcelone, les Espagnols. Donc je vais proposer au collège de faire quelque chose pour que les gens se rencontrent. Et le cours, je refais un cours dans le cadre du collège, peut-être en 2009, en 2010, mais en 2008-2009, là maintenant, je vais reprendre une série de cours qu'on va organiser nous-mêmes avec ceux qui veulent bien m'aider à l'organiser. Voilà.
C'est le dernier cours, là?
Oui, là, c'est le dernier. J'avais 12 séances, donc j'ai J'ai réussi à caser les 12 séances juste jusqu'à la fin. Voilà.